Chapitre 17. Évidemment, la presse avait fait ses choux gras d'un tel événement, et c'est ce qui gênait le plus les autorités. Les commissaires Paoletti et Le Pennec avaient reçu de leurs supérieurs des observations concernant la fusillade. Un tel carnage en plein 15e était du plus mauvais effet. Les deux députés du secteur avaient téléphoné au ministre de l'Intérieur qui n'avait pas apprécié. Et inévitablement, le mécontentement descendait la chaîne pour aboutir sur les deux policiers. Hélas, ce sont les aléas du métier. Dans sa longue carrière, Le Pennec avait été confronté fréquemment à ce genre de problème. La hiérarchie se manifeste plus quand les choses vont mal que lorsqu'elles vont bien. Chaque échelon essaie de se couvrir en trouvant un bouc émissaire. Le commissaire en avait pris son parti. Il n'accordait à ses remontrances pas plus d'importance qu'elle n'en avait. Le boucher, après avoir été opéré, avait pu regagner son domicile. L'homme grièvement blessé était en réanimation sous bonne garde à l'hôpital Dieu, dans l'île de la Cité. Le pronostic des médecins était réservé. La balle qu'il avait reçue en pleine poitrine avait provoqué pas mal de dégâts. Les policiers attendaient qu'il sorte du coma pour l'interroger. Ils avaient fouillé ses habits, mais ils n'avaient trouvé aucun papier d'identité sur lui. D'après les chirurgiens qui l'avaient opéré, c'était un homme d'une quarantaine d'années, sans doute originaire d'Europe de l'Est. Le commissaire Le Pennec et Paoletti se rendirent au chevet du blessé. En route, ils parlèrent du pistolet dont il s'était servi, une arme utilisée dans l'armée russe. Ce n'était pas un élément très déterminant pour faire avancer l'enquête. Ce type d'arme est facile à acquérir dans le milieu du banditisme. Aucune balle n'avait pu être trouvée sur le marché de la Motte Piquet, malgré une fouille méthodique des environs de la fusillade. Le service de nettoiement avait dû attendre 2 jours avant d'entrer en action. Le même type d'arme avait servi à tuer Lucien Olanski, mais les experts de la police scientifique étaient formels. La balle retrouvée dans la chambre de service ne provenait pas de cette arme. La photographie du tireur fut transmise à tous les services de la police et de la DST. Mais l'homme ne figurait dans aucun fichier. En sortant de la chambre, les deux commissaires échangeaient leur impression sur l'homme en réanimation. Paoletti, je pense que nous avons affaire à un Russe. Pourquoi dis-tu cela? Parce qu'il en a la morphologie. De plus, c'est un individu qui pratique souvent des exercices physiques. Sa musculature le prouve. Il est râblé. J'ai interrogé les chirurgiens qui l'ont opéré. Ils ont relevé sur son corps plusieurs cicatrices qui, de toute évidence, proviennent de balles, d'armes de guerre. L'homme est peut-être un militaire ou un mercenaire. Voilà une série d'observations comme je les aime. Ce n'est pas tout, il y a mieux. Quoi donc? L'homme porte un tatouage sur l'épaule droite. Ah bon? Que représente-t-il? Un loup.
Un loup?
Oui, un loup, même un loup blanc. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que notre homme a servi en Tchétchénie. Dis donc, vous êtes fort à la DST. Je ne te le fais pas dire. Dans ce conflit qui dure depuis des années, les Russes ont engagé des unités spéciales de mercenaires. Ces unités ont été baptisées les loups blancs. Les Tchétchènes les redoutent, car ce sont des soldats impitoyables, entraînés à toutes les formes de combat, ne faisant jamais de prisonniers. Après avoir servi dans l'armée russe, ces mercenaires se retrouvent sur d'autres théâtres d'opérations. On se dispute ces spécialistes de la guérilla. Nous savons que les Américains en utilisent en cachette en Irak. On les retrouve en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie, dans tous les conflits où les puissances ne veulent pas faire intervenir leurs armées régulières. La France les utilise-t-elle? Ce sont des informations que je ne suis pas habilité à te fournir, c'est top secret. Mais en l'occurrence, le 15e n'est pas le siège d'une guerre civile. Bien sûr que si. Certains mercenaires sont recrutés par des sociétés privées pour assurer la protection d'installations et de personnes. D'autre part, la mafia russe utilise aussi leurs services. La mafia russe pourrait donc être impliquée dans cette affaire. Ce n'est pas une certitude, mais il y a de fortes présomptions. Mais que vient faire la mafia russe dans des recherches sur la fusion nucléaire? Elle est partout. Peut-être que les services secrets russes cherchent à obtenir des informations sur les travaux de François Marcilly. Ils n'interviennent pas directement et font travailler la mafia pour leur compte. C'est leur couverture. Tu peux toujours aller demander à l'ambassade de Russie, boulevard Lannes, dans le 16e arrondissement, mais cela m'étonnerait qu'elle te donne confirmation de ce que j'avance. C'est bien beau tout cela, la mafia russe est vraisemblablement impliquée dans l'assassinat de mes deux voyous, mais dans ces conditions, l'affaire quitte les limites d'une affaire criminelle classique. D'après les derniers événements, nous n'avons pas affaire à des enfants de cœur. Madame Marcilly a échappé de justesse à un enlèvement. Les conséquences auraient pu être beaucoup plus sanglantes. Il faut redoubler de vigilance, car j'ai le sentiment que le réseau que nous avons en face de nous est prêt à tout pour obtenir les informations qui l'intéressent. Nous devons de toute urgence mettre les deux femmes à l'abri. La fille ne sera pas d'accord, mais on ne lui demandera pas son avis. Quant à sa mère, elle a eu tellement peur qu'elle ne manifestera sans doute aucune opposition.